Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
C'est le mois de mai, quasiment juin. Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent, on peut boire des mojitos, les fleurs sentent bon, bref, ça sent l'été. Mais malheureusement, ça sent bientôt aussi la fin de Langue de Prune. Et ce mois-ci, on va parler d'une thématique assez complexe. Il y a beaucoup de choses à dire et pour cela, j'ai mes deux camarades avec moi, Acélis et Axel. Salut les filles.
Salut.
Bonjour.
La fille. Alors, le programme est assez chargé pour cette émission. Je pense qu'on a toutes les trois des expériences différentes concernant le thème que nous allons aborder durant cette émission. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir aussi parler de quelques anecdotes par rapport à celui-ci. Et ce thème, c'est le plurilinguisme. Alors, sans plus tarder, voilà votre programme. En premier, on verra avec Acélis les langues maternelles et plus précisément les bilingues de naissance, si je ne me trompe pas. Ensuite, nous verrons ensemble l'apprentissage des langues, c'est-à-dire un apprentissage encadré, comme à l'école ou à la crèche. Et enfin, Axel nous parlera des pays multilingues. Bien sûr, tout cela sera ponctué des chroniques désormais mythiques et que vous connaissez toutes et tous, Étymologie en folie, À qui la faute, et d'ici et d'ailleurs. Alors commençons avec la première thématique, on écoute Acélis sur les langues maternelles.
Alors quand on est enfant, on apprend sa langue maternelle sans vraiment avoir l'impression de l'apprendre. On parle de langue maternelle parce que c'est souvent la langue de la mère, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des enfants qui sont élevés par des parents de langues différentes ou qui évoluent dès la naissance au milieu de plusieurs langues. Donc à ce moment-là, ils ont plusieurs langues maternelles. On dit aussi langue natale pour éviter un peu ce côté maman. L'apprentissage de sa langue maternelle, du coup, ce n'est pas un apprentissage formel. On va plutôt parler d'acquisition du langage parce qu'on acquiert la faculté de parler, que ce soit dans sa langue ou dans une autre. Cette acquisition, elle passe par différentes étapes. Pendant la première année, le bébé perçoit les contrastes entre les sons de la parole. Et vers 10-13 mois, il ne distingue plus que les sons de la langue qu'il entend autour de lui, sa langue maternelle justement. À cet âge-là, le bébé babille. Il produit des sons de plus en plus différents et qui sont probablement influencés par la langue environnante, par sa langue maternelle. Et puis ensuite viennent ses premiers mots. Il a environ 10 mots à 1 an. Et puis son vocabulaire grandit jusqu'à atteindre 500 mots environ à 30 mois. Souvent, ses premiers mots, c'est une ou deux syllabes identiques. Papa, par exemple. C'est peut-être juste parce que c'est facile à prononcer et pas parce qu'ils adorent leur papa. C'est ma théorie. Et puis, ils utilisent ces mots-là pour nommer un peu tout et n'importe quoi. C'est pas encore clair ce que ça veut dire. Au cours de la deuxième année, il y a une explosion lexicale. L'enfant utilise plus de mots et il les utilise bien. Et puis, à partir de 20 mois, il commence à assembler les mots. Il repère la position des mots dans les phrases de l'adulte et il essaie de les placer à la même position dans les siennes. Parfois, il fait ce qu'on appelle une surgénéralisation. Il pense qu'une règle s'applique à tous les cas. Par exemple, il va dire « il a metté » au lieu de « il a mis » ou « il a batté » au lieu de « il a battu ». Parce qu'il y a plein de parties passées en « oui ». En même temps, ce n'est pas étonnant. C'est quand même compliqué, juste en écoutant les adultes parler, de construire la règle de formation du participe passé. Je ne sais pas si pour vous déjà c'est clair, la règle de formation du participe passé.
Je suis bien obligée, ma mère est prof de français. Si elle entend ça, elle va me défoncer.
Alors premier, deuxième, troisième groupe, parce que ça te semble accessible à un enfant de 20 mois?
Non, clairement pas.
On considère généralement qu'un enfant parle à 2 ans et demi, car il emploie des phrases de 3-4 mots et des phrases construites, avec un sujet, un verbe, un complément. Ce thème de l'acquisition du langage fascine les chercheurs et les chercheuses depuis longtemps. Et fait débat. Pour le psychologue Skinner, l'enfant acquiert le langage uniquement grâce à ce qu'il entend. Il acquiert le vocabulaire et les règles de grammaire par conditionnement opérant. C'est parce qu'il est récompensé par des félicitations lorsqu'il utilise de nouveaux mots ou des phrases correctes qu'ensuite il va les réutiliser. Et à l'inverse, c'est parce que l'adulte manifeste sa désapprobation quand il produit des énoncés incorrects qu'il va arrêter de les utiliser. mais ça n'explique pas que tous les enfants suivent les mêmes étapes de développement du langage. Il y a une autre grande théorie, celle de Chomsky, pour qui le langage est généré à partir de structures innées. L'enfant posséderait dès la naissance un dispositif d'acquisition du langage qui lui permettrait de comprendre l'utilisation des règles grammaticales et de faire des phrases structurées. Chomsky considère qu'il n'y a pas de lien entre langage et pensée et c'est démenti par les théories actuelles. Il faut savoir ce que Skinner et Chomsky, vraiment, ils se détestaient. Non, je ne connais pas leurs sentiments, mais ils n'étaient vraiment pas du tout d'accord. Il y avait un peu un gros fight entre les deux qui a fait grand bruit. Il y a un autre psychologue qui a une grande théorie sur la question, c'est Brunner, pour qui il doit y avoir des cadres d'interaction adéquats pour que l'enfant apprenne à parler. Donc ça veut dire que l'enfant a besoin de systèmes d'aide à l'acquisition des langues, c'est comme ça qu'il les appelle, pour apprendre cette langue. Notamment le baby talk ou langage enfantin. Parce que quand on parle à un bébé, souvent on lui parle avec des énoncés plus courts, simples, répétitifs. Donc ça, c'est les trois théories les plus connues, mais évidemment, il y en a plein d'autres, et notamment des plus actuelles. Donc là, j'ai décrit une acquisition normale du langage, mais ça ne se fait pas toujours aussi facilement. Il y a des enfants qui ont des troubles articulatoires. Par exemple, ils vont zozoter. Généralement, ça peut être amélioré avec une rééducation. Il y en a qui vont avoir un retard de parole, quand vers 4-5 ans, ils commettent des erreurs qu'on observe plutôt à 3 ans, par exemple confondre des consonnes ou raccourcir des mots, ou un retard de langage. Là, ils vont avoir peu de mots et une syntaxe rudimentaire. Il y a aussi le bégaiement, bien sûr, et la dysphasie. Ça, c'est un trouble à la fois de l'expression et de la compréhension et qui est durable, donc qui peut entraîner des difficultés ensuite à l'école. Ces études sur l'acquisition du langage, elles s'intéressent à l'apprentissage de sa langue maternelle. Mais n'oublions pas qu'on peut avoir plusieurs langues maternelles. Dès l'enfance, on peut baigner dans plusieurs langues, typiquement si on a des parents qui parlent des langues différentes. On parle alors de plurilinguisme précoce et de bilinguisme précoce quand l'enfant parle deux langues. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être bilingue ? Ou plurilingue?
Bah, c'est parler de manière très fluide plusieurs langues.
Bah, je vais faire un peu la définition après, mais pour moi, c'est être assez à l'aise dans une conversation, pas connaître parfaitement, mais être assez à l'aise pour échanger avec quelqu'un de natif.
Ouais, moi, j'étais assez d'accord avec vous et pas mal avec Axel. Et en faisant des recherches, j'ai vu qu'en fait, il y a deux sortes de plurilinguisme. Il y a le plurilinguisme actif, où on peut en effet parler très bien une langue et être vachement à l'aise. Et le plurilinguisme réceptif, qui fait qu'en fait, on va comprendre des énoncés, mais pas savoir en produire. C'est fréquent, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un parent ou un grand-parent qui parle une autre langue et qui vont être habitués à parler avec cette personne, qui vont donc comprendre cette autre langue, mais répondre en français. Beaucoup de personnes considèrent que ça peut être un inconvénient pour les enfants d'être plurilingues. Notamment, on va souvent dire que ça peut être une source de confusion. L'enfant risquerait de mélanger les deux langues. Bah, c'est assez fréquent chez les enfants comme chez les adultes de parfois emprunter un mot à l'autre langue. Mais ce n'est pas un signe que l'enfant mélange les deux langues, c'est simplement que ce mot-là, il l'utilise plus souvent dans cette langue ou que tout simplement, il n'existe pas dans l'autre langue. Parfois aussi, des personnes bilingues vont passer d'une langue à une autre. C'est ce qu'on appelle le code switching ou l'alternance codique, mais je laisserai Morgane revenir dessus plus en détail. Il y a aussi une autre crainte au niveau du plurilinguisme précoce, c'est que l'enfant, puisqu'il acquiert deux langues, il n'en acquiert aucune vraiment bien. Il y a des études qui montrent que les enfants bilingues connaissent moins de mots que les monolingues dans chacune des langues. Mais ces études ont un biais, car généralement, elles sont faites sur des enfants qui n'ont pas le même milieu social. Donc, on n'a pas forcément les mêmes apports au niveau de vocabulaire. Désormais, on considère plutôt que c'est une chance d'être plurilingue précoce. Déjà, parce que l'enfant sait parler plusieurs langues, donc déjà en soi, c'est cool. Mais aussi, il y a des études qui montrent que ça renforcerait ses capacités d'adaptation, que ça l'aiderait à se mettre à la place des autres, et même que ça retarderait la démence. Le fait que le plurilinguisme précoce soit perçu comme une chance ou un obstacle, ça dépend beaucoup des langues. Par exemple, si une des langues maternelles, c'est l'anglais. Bah déjà, c'est beaucoup plus utile que si c'est le breton. Et puis, aussi, c'est intéressant de parler deux langues qui sont très différentes. Par exemple, de familles linguistiques différentes. Si on parle français et arabe, le fait de parler français, ça permettra d'apprendre plus facilement une autre langue latine. Et le fait de parler arabe, ça permettra plus facilement d'apprendre une autre langue kamito-sémitique ou chavito-sémitique, je ne saurais jamais comment le dire. Écoutez notre émission sur les familles de langues si vous voulez en savoir plus. En France, quand on parle ou on comprend l'anglais ou l'arabe, ça ça va pas le, comment dire, c'est très différent. Ça va pas être perçu pareil par la société. Tout simplement parce que les communautés arabophones sont des communautés victimes de racisme, mais c'est pas le cas des communautés anglophones. À l'école, par exemple, on va s'extasier devant un enfant qui parle anglais, on va féliciter ses parents de parler anglais avec lui. Et par contre, on va s'inquiéter d'un enfant qui parle arabe. On va voir le fait que ses parents ne lui parlent pas français à la maison comme un problème. J'entends très souvent dans les écoles des commentaires du genre sur des enfants qui ont des difficultés en français. « Ah bah évidemment, ça parle pas français à la maison. Ah bah il a aucune chance. » Et c'est jamais des enfants qui parlent anglais ou allemand. Donc toutes les langues maternelles ne sont pas sur un pied d'égalité, car tout simplement la société n'est pas égalitaire. On peut parler plusieurs langues quand on est enfant, mais on peut n'en parler plus qu'une une fois adulte. C'est l'attrition langagière, c'est quand on n'arrive plus à utiliser une de ces langues maternelles. Ça s'explique par le fait qu'on utilise moins, voire plus du tout cette langue. C'est souvent le cas quand elle est peu parlée là où on habite. Alors c'est plus rare maintenant parce qu'on a pas mal de moyens de communication. Si on habite dans un autre pays que celui où on est né, on peut facilement continuer à parler avec sa famille ou ses amis avec Internet ou un téléphone. Mais bon, ça existe toujours. Et c'est logique parce qu'on va privilégier la langue qui nous permet d'être insérés dans la société, celle qu'on utilise à l'école, au travail. Évidemment, les communautés qui sont le plus sommées de s'intégrer ont plus de risques de perdre leur langue maternelle. Quand on entend des gens dans la rue parler arabe ou turc, par exemple, on va très souvent entendre des commentaires du genre « Ah, bah bravo, quel communautarisme !» Ce qu'on entend rarement quand on entend des gens parler anglais. Donc évidemment, ça n'encourage pas trop à utiliser ces langues. Et puis, sans aller aussi loin que l'attrition, on peut oublier certains mots ou faire quelques erreurs syntaxiques quand on n'utilise plus beaucoup une de nos langues maternelles. Par exemple, j'ai un de mes oncles qui habite aux États-Unis depuis 30 ans et il nous dit souvent « confident » au lieu de « confiant », avoir confiance en soi. Parce qu'en anglais, « confident », si on le lit à la française, ça fait « confident ». Donc les langues maternelles, même si on n'a pas l'impression de les apprendre, elles ont une grande influence sur nous, sur notre parcours scolaire, l'image que l'on renvoie et même notre place dans la société.
Eh ben merci Azélis pour toutes ces informations, ma foi passionnantes sur les langues maternelles. Et c'est le moment déjà de notre première pause musicale avec la chanson My Sister's Crown de Vesna.
Je ne sais pas comment ça se prononce.
On ne sait pas. Donc, Vena ou Vesna, peu importe, on est en train d'écrocher le nom, on en est désolé. Chanson donc en tchèque et en anglais de l'Eurovision de cette année, c'est parti.
Сестра красива, ой, ты сильна, хоробра, едина, корона твоя.
langue de prune.
Et c'était Vena ou Vesna, on ne sait toujours pas, avec My Sister's Crown. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM. Et on écoute désormais Axel avec sa chronique À qui la faute ?
À qui la faute ?
Est-ce que vous aimez les gaufres ?
Bah, à ton avis.
Bien évidemment.
Évidemment, tout le monde.
Tu pourras en faire plus souvent.
Comment est-ce que vous... le gaufrier, il est à toi, Aziz. Comment est-ce que vous écrivez gaufre ?
Ah, la question piège.
G-A-U-2-F. Ah, j'aurais dit un F.
R-E. S, c'est des gaufres.
Oui,
et on mange rarement une seule gaufre toute seule.
Oh là là, mais oh, tu nous demandes.
Du coup, un ou deux F ?
Bah, moi, je dirais deux F, là, mais du coup, tu me fous le doute. En fait, quand tu m'as posé la question, j'ai...
Ah ouais, j'aurais dit un, mais du coup, tu me mets le doute.
Non, deux F.
Je pense que ta mère va être énervée, c'est un F.
Ah, merde.
Ma mère va être très fière
Maman,
de moi.
Maman, excuse-moi.
Peut-être que vous avez déjà fait l'erreur. Du coup, Morgane, oui, je présume. Elle est dictée il y a longtemps. Bam, un point en moins.
Un point, c'est peut-être beaucoup. Hein. 0,50.
Oui, peut-être. Le maître ou la maîtresse vous gronde et tout. Vous dites, ah mince, je suis nulle. Eh bien, en fait, j'ai une bonne nouvelle. Vous aviez raison.
Ha
Au 18e siècle.
Ah, voilà. Ah. Moi, je vis dans mon époque, en fait.
Oui, mais...
Le mot gaufre et tous les dérivés, hein, gaufrier, tout ce qui va autour, en fait, s'écrivait avec deux F jusqu'à environ 1740. Et c'est le cas aussi, par exemple, pour moufle, qui était utilisé avec deux F jusqu'en 1765. Même si à l'époque, ça voulait dire plein de choses, pas que les gants, hein, système de poulies et tout, je n'ai pas trop compris. Ou aussi agrafe, avec deux F, encore en 1701, avant qu'il y en ait un des deux qui tombe. Et dès 1751, on ne retrouve plus qu'un seul F. À votre avis, à qui la faute ? La
presse. Bah, Morgane.
Ah. Non, à la
qui
presse.
Qui a décidé ?
La presse écrite. Pour que... Alors, bah, j'ai une théorie.
La
hein.
presse écrite ?
Non, parce que quand on... Enfin, parce qu'il y avait un truc comme ça. Vous savez déjà, ça se rapporte à l'anglais, à l'américain, l'anglais américain. En fait, par exemple, il y a des mots, il y a des lettres en moins, genre color, on enlève un U en anglais américain. Donc ma théorie, c'est qu'en français, on a voulu faire la même chose pour économiser le nombre de lettres qu'on imprimait sur papier, et donc on a enlevé des F et des S là où on pouvait.
Alors, c'est pas exactement ça, mais t'es pas si loin du truc. Alors déjà, la première théorie qu'on pourrait dire, c'était nos ennemis. Nos ennemis jurés à langue de prune, ceux qu'on... L'Académie française. Alors oui, en partie, c'est eux, hein, parce que c'est eux qui ont eu le dernier mot avec la sortie de leur troisième dictionnaire. Mais en fait, au 18e, il y avait un groupe qui avait un impact important sur l'orthographe. Et c'est justement, bah, tu disais, la presse, mais à l'époque, on parlait plus des imprimeurs, de manière générale. Parce que littéralement, ils avaient le dernier mot, en fait. Et c'est-à-dire que s'ils voulaient, s'ils disaient, bah non, en fait, ça s'écrit comme ça, l'auteur avait rien à dire parce que c'était trop tard, c'était imprimé. Et du coup, en fait, pendant très longtemps, c'est les imprimeurs, surtout pendant cette période-là, qu'on décidait un peu de comment les choses s'écrivaient, enlever certaines ponctuations si elles ne leur correspondaient pas. Et même en rajouter, surtout en emprunter à d'autres langues, par exemple les apostrophes, qui ont été empruntées pour, en fait, bah, que ça colle à ce qu'ils souhaitaient et comment est-ce qu'ils souhaitaient faire la mise en page. Donc voilà, sans eux, t'aurais eu raison, Morgane. Est-ce que ça te révit pas un peu quand même de savoir que...
Si, que j'avais raison, au fond.
Au final, est-ce que t'es pas juste plus conservatrice que les conservateurs ? Peut-être pas plus proche de la vraie langue ?
Peut-être que si, peut-être que, en fait, mon esprit a été réincarné au 21e siècle, mais qu'en vrai,
bah, c'est ça.
Je vis au 18e, tu vois.
Qu'est-ce que c'est que le temps ?
Finalement.
Voilà.
Question nounou.
Voilà.
Merci Axel pour à qui la faute. Et on passe désormais à la deuxième thématique de cette émission. Je vais vous parler de l'apprentissage encadré des langues. Alors c'est un thème qui me passionne particulièrement parce que je suis partie un an en Angleterre l'année dernière. Et oui, j'en parle beaucoup, soyons clairs, parce que c'était sûrement la meilleure année de ma vie jusqu'ici. Et surtout, j'ai des milliards d'anecdotes concernant la langue et les situations dans lesquelles j'ai pu me retrouver en tant que Française parlant anglais. Mais alors d'abord, commençons par des recherches concrètes que j'ai pu trouver sur Internet concernant le plurilinguisme. Alors c'est Françoise Gadet et Gabriel Varro qui ont publié un article dans Langage et Société sorti en 2006 intitulé « Le scandale du bilinguisme ». dans lequel ils disent donc que les études sur le bilinguisme sont assez récentes, puisque finalement, elles ont réellement pris de l'ampleur ces 40 dernières années. Et ça semble assez... ça semble même très très récent. Les auteurs précisent aussi que pour avoir du bilinguisme, il faut forcément des rencontres entre des locuteurs et des langues différentes. Bon, ça c'est la base déjà. Ensuite, on peut rentrer dans les détails. Selon l'article de François Grosjean dans Revue française de la linguistique appliquée sortie en 2018 intitulé « Être bilingue aujourd'hui », eh ben, être bilingue, c'est parler plus d'une langue plus ou moins parfaitement. On en revient donc à cette définition du bilinguisme dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'être bilingue, ça ne veut pas forcément dire maîtriser tous les aspects d'une langue comme la grammaire, la compréhension écrite, l'expression orale. Ça peut être qu'un seul de ces aspects linguistiques. Il est aussi important de comprendre qu'une personne peut devenir bilingue à n'importe quel âge. Mais être bilingue, ça ne veut pas forcément dire être biculturel. Autrement dit, connaître et être immergé dans deux cultures en permanence. Ça rejoint ce que tu disais, Asilis. Si je prends l'exemple de mes camarades en fac de langue, que je salue, on aimait tous la culture anglo-saxonne ou américaine. Et pourtant, aucun ou peu d'entre nous avait été élevé avec cette culture. C'est-à-dire qu'on s'y intéresse, mais étant donné qu'on ne vit pas dans l'un de ces pays, il nous manque beaucoup, vraiment beaucoup d'aspects linguistiques. Et il y a aussi énormément de mythes liés au bilinguisme. Et là, ça m'a fait rire parce que je pense que certains d'entre nous vont s'identifier à ça. Premièrement, c'est que le bilinguisme serait soi-disant quelque chose de rare. Bon, je pense qu'on parle tous un petit peu anglais ou un petit peu une autre langue ici autour de cette table. Bon, il y a deux tables, mais c'est pas...
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Donc, c'est absolument faux, hein, puisqu'une énorme partie de la population sur Terre est considérée bilingue, selon la théorie de Grosjean. Le deuxième mythe, c'est qu'on a acquis cette langue dans sa prime enfance. Bon, clairement, totalement faux. J'en suis l'exemple et je pense qu'on en est tous l'exemple. Hein. J'ai commencé à apprendre l'anglais qu'en sixième, donc j'avais à peu près 11 ou 12 ans. Le troisième cliché, et là, ça m'a fait vraiment rire, tout bilingue est un traducteur né. Là, les étudiants en fac de langue pleureraient en entendant ça. La traduction, ça se travaille, c'est quelque chose de vraiment très complexe. Et si on n'aime pas ça, souvent, on est vraiment nul. Alors, peu importe si on est bon ou pas en langue, ou si c'est du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, ça dépend vraiment. Il y en a qui sont bons à l'autre et pas à l'autre. Il y en a qui sont bons aux deux ou il y en a qui sont nuls aux deux. Voilà. Alors, j'ai fait de la traduction pendant 3 ans à la fac. La plupart de mes camarades détestaient ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si on devait faire un sondage. Je pense que la plupart des gens diraient qu'ils n'aiment pas ça. Enfin, Grosjean soulève un point qui devrait parler aux bilingues, le code switching. Donc là, on en revient à ce que disait Asilis. En fait, c'est quand deux personnes bilingues se rencontrent et vont parler deux langues qu'elles ont en commun. Et ce ne sera pas aussi simple qu'une phrase en anglais puis une phrase en français, non. Ce sera vraiment plutôt une phrase qui mélangera des mots anglais et des mots français, par exemple, voire même qui vont inventer des anglicismes, si c'est en anglais et en français, voire même qui vont inventer des anglicismes sortis de nulle part, qui n'existent absolument pas. Mais eux vont le comprendre, puisque leurs cerveaux sont entre guillemets codés pour comprendre ces mots. On parlait tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure de confident. Si tu dis confident, quelqu'un qui parle l'anglais assez fréquemment, moi j'avais compris direct qu'ils allaient dire confident, et je pense que si tu parles avec quelqu'un qui parle ces deux langues, c'est assez évident. Alors, il me semblait aussi important d'avoir un point de vue extérieur sur toute cette histoire de plurilinguisme. Donc, pour ça, j'ai demandé à l'une de mes meilleures amies, qui est anglaise, de me donner sa définition du bilinguisme. Alors, elle parle un tout petit peu français, mais elle ne se considère pas bilingue. Pourtant, si on applique la règle de François Grosjean, elle est bilingue, puisqu'elle est capable de comprendre beaucoup de choses en français et de parler quelques mots. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure.
Ah oui, le bilinguisme réceptif.
C'est ça, voilà, exactement. Alors, même si son orthographe et sa grammaire ne sont clairement pas parfaits, ça nous amène à sa définition. Pour elle, être bilingue, c'est être à l'aise dans une conversation et être capable de répondre, peu importe sa langue maternelle. Je lui ai aussi demandé ce qui faisait la différence entre un natif, donc une personne dont c'est la langue maternelle, et une personne bilingue qui aurait appris sa deuxième langue. Elle m'a dit que si on ne vit pas dans un pays dans lequel la langue est parlée, la difficulté sera de comprendre les termes plus familiers, comme le verlan, par exemple, en français, et de comprendre des aspects plus niches liés à la culture. On revient donc à cet aspect, encore une fois, biculturel. Si c'est une langue apprise, la langue, l'accent et les intonations sont nettement différentes. Et on vous a sûrement appris à l'école que les intonations en anglais étaient finalement très monotones et bougeaient peu dans une phrase. Vous verrez que si vous parlez avec un anglophone, peu importe si votre accent est parfait, souvent il saura que vous n'êtes pas natif. C'est très difficile d'avoir les mêmes intonations qu'eux, surtout quand on est français, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a une langue hyper chantante. Bref, vous serez grillé direct. Toujours selon mon ami, l'école a tendance aussi à apprendre une sorte de grammaire parfaite et hyper polie. On se souvient tous des « if I were » et pas « if I was ». Bon, bah clairement, vous entendrez plus la faute que la façon entre guillemets correcte de le dire si vous allez dans un pays anglophone. Alors, c'est pas un problème hein, d'avoir cette façon parfaite de parler, au contraire, dans les situations professionnelles. Mais ça peut faire un petit peu bizarre dans les situations un peu plus familières. Et on arrive maintenant à la dernière partie de cette thématique qui me semblait assez importante, c'est l'apprentissage des langues. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je tiens à dire qu'une langue, bah, ça se travaille. On ne devient pas bilingue du jour au lendemain. Pour certains, c'est le fruit d'années d'apprentissage, pour d'autres, de quelques mois. On n'est pas tous égaux face à l'apprentissage d'une langue, et c'est normal. Mais alors, quelle serait la meilleure méthode d'apprendre une langue? Je vous dirais que la méthode traditionnelle par l'école, c'est toujours la meilleure façon de s'améliorer. Et oui, malheureusement, vous ne pourrez pas échapper au verbe irrégulier. Certains aiment ça, d'autres non. C'est peut-être pas la méthode la plus ludique et la plus rigolote pour apprendre une langue, mais c'est une méthode efficace. Tout dépend aussi, bien évidemment, du prof qui joue un grand rôle dans l'apprentissage d'une langue. Alors quand vos profs de langue vous disent d'apprendre vos leçons, écoutez-les. Et si vous voulez devenir bilingue, ça ne sera pas en un coup de baguette magique. Et encore moins en utilisant la fameuse méthode des séries qui a tendance à un peu m'énerver et qui commence à devenir un peu ridicule. C'est-à-dire que cette méthode dirait qu'on pourrait apprendre une langue en regardant des séries avec des sous-titres dans la langue originale. Je pense que vous avez déjà entendu ça.
Oui.
Voilà. Bon, comment vous dire, c'est un grand nom. On ne peut pas apprendre une langue simplement en regardant une série ou un film. Oui, on peut le faire pour compléter ses compétences et ses connaissances linguistiques. Je suis entièrement pour que ça complète l'apprentissage d'une langue. En revanche, on aura toujours besoin des bases, du B.A.B.A. de la langue. Parce que ce n'est pas en regardant Grey's Anatomy qu'on apprendra qu'on ne dit pas « if I was », mais « if I were ». Justement, parce qu'ils font l'erreur. Il y a aussi le fait que l'accent dans les séries est hyper simplifié pour les spectateurs et spectatrices. La réalité est tout autre. Et donc, ça vous fera un gros choc si vous vous retrouvez au fin fond de Birmingham. À côté, Peaky Blinders, c'est hyper simple. Même chose pour les sites comme Duolingo ou Babbel, qui sont hyper bien faits, il faut le dire, mais ils ne suffiront pas sur le long terme. Finalement, le meilleur moyen, c'est de se lancer, c'est de se jeter à l'eau et d'aller dans le pays concerné. Bref, faites Erasmus, c'est ma petite pub. Et on écoute désormais The Killers avec la chanson mythique Mr. Brightside que j'ai choisie pour illustrer l'aspect biculturel dont je vous parlais tout à l'heure. Et oui, les connaisseurs de la culture anglo-saxonne sauront que c'est leur équivalent des lacs du Connemara, celles que tu hurles en soirée.
Stomach is saying
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Et c'était Mr. Brightside des Killers et vous êtes toujours sur Prune 92 FM. On va désormais écouter Asilis pour la chronique d'ici et d'ailleurs, elle nous parlera des noms de marques. C'est parti.
D'ici et d'ailleurs.
Partout dans le monde, il y a des chips Lay's. Pourtant, si on les cherche dans un magasin à l'étranger, on risque d'être un peu perdu. Entre les chips Margarita en Colombie, Walkers au Royaume-Uni ou Chipsy au Brésil. Et oui, les marques changent souvent de nom quand on traverse les frontières. Un nom accrocheur dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre. Mon premier exemple va être un exemple qui me tient à cœur. Les glaces Miko. Alors déjà, pourquoi est-ce que ça me tient à cœur? Je ne sais pas si vous en avez mangé à la cantine, ces petits pots de glace avec une moitié fraise, une moitié vanille. Il y avait aussi mi-vanille, mi-chocolat, mais c'était moins bon. Et j'ai toujours rêvé d'en remanger. J'ai jamais réussi. À chaque fois que je voyais le logo, là, le double cœur, sur les congélos qu'on trouvait dans les restos, les snacks et tout, j'avais un petit espoir. Mais j'en ai jamais retrouvé. Mais bon, là, je me disperse un peu. C'est une autre quête. Je suis là pour vous parler du nom de la marque. C'est une marque française. Donc, c'est pour ça qu'en France, on dit Miko. Mais les noms n'ont rien à voir dans les autres pays. Il y en a qui ont un peu les mêmes sonorités, genre Tio Rico, Lusso ou alors Frigo en Espagne. Ce qui est un peu ridicule pour nous. Et puis parfois, ça n'a vraiment rien à voir. Walls au Royaume-Uni, Hola ou alors Good Humor en Amérique du Nord. Donc voilà, je n'ai pas d'explication à ce mystère. On va passer à une autre marque. Un peu de douceur. Est-ce que vous connaissez Cajoline?
Bien sûr.
Oui, oui.
Ça sent trop bon.
Ah, la lessive et sa petite mascotte qui s'appelle aussi Cajoline, un petit ours tout mignon. Et bien là aussi, il ne s'appelle pas comme ça partout. Mais à chaque fois, c'est un nom hyper chou et on a envie de lui faire des gros câlins.
Coucou, soy yo, Mimosín. Y esta era mi abuelita. Ella escondía en el armario saquitos de lavanda para dar frescor a su ropita.
Spéciale dédicace à ma sœur, dont je n'ai pas parlé depuis hyper longtemps dans cette émission. Ma sœur habite en Espagne et c'est elle qui m'a parlé de Mimosín, la version espagnole de Cajoline. Il est vraiment trop mignon. Et puis, bah, parfois, une marque a le même nom partout dans le monde, sauf quelques exceptions. Par exemple, Monsieur Propre. Dans presque tous les pays, il s'appelle Monsieur Propre, mais c'est traduit. Maestro Lindo, Mr. Clean. Mais au Royaume-Uni, il y avait déjà une marque appelée Mr. Clean. Donc l'entreprise a choisi Flash. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça nettoie très rapidement. C'est le même problème pour Burger King. En fait, en Australie, il y avait déjà un Burger King. Donc, le patron de la franchise australienne, Jack Cowin, a décidé de l'appeler Hungry Jack's, chez Jack l'affamé. Donc, hyper mégalo. Au Québec, j'essaie de le faire avec un accent québécois. Je ne sais pas ce que j'ai tenté. La réglementation est assez stricte sur le fait de traduire les noms, comme les titres de films, par exemple, en français. Donc, on ne peut pas dire KFC, on doit dire PFK, pour Poulet Frit Kentucky. Ça paraît assez logique. L'avantage de ces multiples noms pour une même marque, c'est qu'on n'a pas l'impression d'utiliser les mêmes produits où qu'on se trouve sur la planète.
Et merci à Célise. Et c'est maintenant au tour d'Axel de nous parler des pays multilingues pour la dernière thématique de cette émission riche en langues.
Alors, du coup, pour cette partie... j'ai d'abord regardé la liste des pays qui sont multilingues et en fait cette liste est tellement longue que je me suis dit bon bah je vais juste tous les nommer jusqu'à la fin de l'émission là, donc j'espère que vous êtes bien assis, que vous avez un café, quelque chose à manger, voilà, parce que c'est parti. Non, je rigole, évidemment. J'ai choisi deux pays desquels je vais parler plus précisément parce que je trouvais que la situation linguistique de ces pays-là était intéressante. Et sur certains aspects aussi, ils sont assez opposés, vous allez voir. Et on va commencer par l'Inde. La constitution indienne reconnaît officiellement 22 langues, et ça vous paraît sûrement énorme.
Ouais.
Un peu de contexte, dans le pays, il y a 270 langues maternelles différentes. Donc en fait, c'est très peu. Proportionnellement, c'est très peu. La langue officielle du gouvernement central, donc, c'est l'hindi. La langue maternelle, en fait, de 41% de la population. C'est 422 millions de personnes. C'est majoritairement, en fait, tous les États du Nord. Il y a quand même aussi, en plus de ça, entre 20 et 25% des Indiens qui la parlent en langue secondaire. Donc, on a quand même à peu près 60% du pays qui parle cette langue-là. La Constitution indienne, donc, qui est entrée en vigueur le 26 janvier 1950, a une traduction officielle en hindi et en anglais. Et l'anglais qui est, en fait, pas parlée de manière maternelle en Inde. C'est une langue secondaire parlée par 12% de la population. Vous le savez, l'anglais, sa présence, c'est du fait de la colonisation anglaise. Et du coup, forcément, c'est une langue qui est très présente dans les lieux de pouvoir, par exemple dans les niveaux administratifs et aussi le commerce. Mais encore une fois, pas du tout de manière maternelle. En fait, initialement, la constitution indienne prévoyait qu'après 15 ans, après une petite période donc de transition, l'anglais ne serait plus du tout utilisé comme deuxième langue officielle. En fait, tous les États qui ne sont pas indiphones, donc plus les États centraux et du Sud, ils ont protesté contre ça. Et du coup, en 1963, il y a une loi qui a été adoptée par le Parlement qui maintient l'anglais. Les 22 langues officielles, elles n'ont pas été toutes reconnues en un seul bloc. Hein, ça a été fait par vagues, donc initialement, il y en avait juste 14. Après, il y a eu le Sindhi qui a été ajouté en 67, le Konkani, le Manipuri, le Népali en 92, le Bodhi, le Dogri, le Méthili, le Santali en 2004. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est toujours en cours. Il y a actuellement, en fait, toujours en cours 38 ajouts d'autres langues qui est toujours à l'étude. Après, forcément, comme je disais, sur 270. Donc, la deuxième langue la plus parlée après l'hindi, celle avec le plus de locuteurs juste après, c'est le bengali. On parle quand même de 97 millions de personnes. C'est parlé donc dans le nord-est. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que c'est cette langue-là qui est utilisée pour l'hymne national indien, que je vous ferai écouter juste après, du coup. En fait, comme l'Inde, c'est une république fédérale, un peu dans le même système, dans le même fonctionnement que par exemple l'Allemagne, les États-Unis. Il y a aussi, en plus de ça, 15 langues qui ont un statut officiel à l'échelle d'un État fédéré ou d'un territoire de l'Union. Le territoire de l'Union, c'est les territoires qui sont reliés au gouvernement central, en plus de ces 22 langues-là. Mais encore une fois, forcément, sur 270 langues, voilà. En fait, c'est aussi qu'en Inde, comme je vous disais, il y a beaucoup de langues qui sont parlées. Et quand on regarde comme ça rapidement les chiffres, on a l'impression que c'est beaucoup de langues qui ne sont pas parlées par beaucoup de gens. Mais le problème, c'est le raisonnement par pourcentage à l'échelle de l'Inde. C'est vraiment limité. Parce que par exemple, le tamoul, c'est parlé par 5,91% de la population. On se dit, bon, pas beaucoup d'Indiens. Bah, ça représente 70 millions de personnes. c'est plus que toute la France. Donc forcément, avec une population aussi importante, eh bien, il est nécessaire de reconnaître officiellement les langues. Et comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est toujours en cours et on est très loin d'avoir toutes les langues maternelles qui sont représentées. Comme je vous disais, je vais vous faire écouter un peu l'hymne national indien pour que vous entendiez aussi un peu de bengali, parce que ce n'est pas la langue qu'on entend le plus souvent. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya Hai Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Utchala Jaladhi Taranga. Voilà. Alors après, pour faire quelque chose de plus proche de nous, qui fait peut-être un peu moins rêver, bon, un petit peu quand même, je me suis dit que j'allais parler de la Suisse. Voilà, on ne fait pas plus à côté, hein, c'est littéralement nos voisins. Vous le savez, évidemment, mes chers camarades, en Suisse, il y a 4 langues officielles. Est-ce que vous pouvez toutes me les nommer?
Bah ouais, j'ai de la famille en Suisse, alors je vais pas me tromper.
Ah bah alors, vas-y.
Alors,
Non, du coup, Azilis, tu triches. Ah bah Morgane, non. Toi, tu les connais?
Ah mais bon, le Suisse.
C'est une bonne idée.
Attends, non, mais ça me fait... Bah non, mais il y a le français, c'est oui, l'une des langues,
oui,
non?
Oui.
Le flamand, enfin, ou quelque chose comme ça, non?
Non, pense aux frontières.
Roger Federer.
Ah, Roger Federer...
Roger Federer, je sais pas comment
je dis. Non, je sais pas.
Tu veux l'aider, Azilis?
Vas-y, aide-moi.
Il y a l'allemand,
okay.
L'italien.
Italien
et c'est, ouais, parce que c'est aussi à la frontière italienne. Oui. Et le dernier, je dirais le romanche, mais je suis pas trop
oui,
sûre.
Oui, c'est ça, ah, bravo. Alors, je vais pas vous faire l'affront de détailler l'allemand, l'histoire de l'allemand. L'allemand, ça vient d'où? Le français, patati patata, l'italien, bon voilà, on connaît. Le romanche, par contre...
Alors là,
vous pouvez me dire des trucs sur le romanche?
Je parle en romandie.
Du coup, je me suis dit que j'allais faire peut-être un petit point un peu là-dessus. Le romanche, en fait, bon, déjà, comme le français, l'italien, l'espagnol, c'est une langue romane, donc issue du latin. Mais, attention, plot twist, c'est surtout, voilà, en fait, 5 langues différentes.
Quoi?
Donc à la base, le romanche, en fait, c'est 5 langues, comme je disais, différentes. Le, je ne suis pas sûre comment on les prononce, sur-sylvan, le valadère, le surmiran, le sud-sylvan et le pouter. Oh. Et en fait, en 1982, il y a une version standardisée écrite qui a été introduite. En fait, pour simplifier les choses, notamment pour tous les élèves, ça voulait dire que dans les régions, enfin la région principalement où, où sont parlées les langues romanches, bah, pour tous les manuels scolaires, il fallait faire 5 versions différentes, 5 langues différentes. Voilà. Donc vous
imagine
ça.
Le cartable, le poids du cartable.
Ouais, bah après, non, les t'as pauvres. Pas besoin. Après, ça fonctionne la bouteille. Quoi.
Ce que je veux dire, c'est que du coup, ils a été créée une version standardisée écrite. Ça a fait forcément débat parce que la question, c'était bah, comment on préserve les différentes langues. Le romanche, qui a 60 000 en tout locuteurs environ, c'est dans le canton des Grisons, principalement, qu'il est parlé. Évidemment, vous savez où c'est.
Ouais, c'est en Suisse.
Ouais. C'est l'est de la Suisse. Après, c'est assez facile de se représenter parce que, bah, du coup, à l'ouest, il y a la France, le français, au nord, l'Allemagne, au sud, la Suisse. Et à l'est, le romanche. La première trace écrite du romanche qu'on a date du 15e siècle. Et c'est une langue, en fait, bah, du coup, sans surprise, quand on connaît un peu le paysage linguistique en Europe, qui est en recul. Après, en recul assez lent, mais quand même en recul constant. C'est pour ça aussi que la création d'une version standardisée faisait débat. Parce que, bah, tout simplement, dans le canton des Grisons, la langue est petit à petit remplacée par l'allemand. Et ça, si vous avez écouté l'émission, vous vous doutez pourquoi. L'allemand a plus de poids à l'international, etc. Donc forcément, petit à petit, ça prend le pas. En fait, ensuite, en Suisse, pardon, mais aussi ensuite, parce que je continue ma phrase, chaque canton décide de sa ou ses langues officielles, suivant le nombre de locuteurs. La Constitution fédérale, en fait, a plusieurs principes qui sont autour des langues qui sont très forts. Donc l'égalité des langues, la liberté des citoyens et citoyennes en matière de langue, la protection des langues et la territorialité des langues. Chaque canton a un découpage linguistique. On peut voir, en fait, ils ont des cartes très précises. Et cette géographie linguistique du pays, d'ailleurs, celle qu'on observe aujourd'hui, bah, ça a très peu changé depuis le XIIIe siècle. À part, comme je disais, ce recul petit à petit du romanche. Je citais que l'allemand est une des langues officielles. C'est assez largement la langue majoritaire là-bas. En fait, mais quand on dit que 64% de la population suisse parle allemand, c'est allemand ou suisse-allemand. Et là, c'est une distinction importante. Le suisse-allemand, c'est un regroupement de plusieurs dialectes de l'allemand. Et l'allemand standard, après, est utilisé dans les communications écrites, les journaux, les livres, la correspondance, à l'oral aussi, dans des situations formelles, dans les écoles, au Parlement, quand c'est plurilinguistique. Et aussi dans les émissions, les informations à la télé et à la radio. C'est ce qu'on appelle une diglossie codique ou médiale. Il y a une langue pour l'écrit, une langue pour l'oral. À l'inverse de la situation d'ailleurs de beaucoup de dialectes en Europe, les dialectes allemands-suisses sont parlés par toutes les couches de la population. Il n'y a pas de distinction de classe sociale, de niveau d'éducation, de distinction par exemple entre campagne et centre urbain. Donc il n'y a pas vraiment de stigmatisation de ces dialectes-là. C'est pour ça qu'il y a des émissions à la télévision qui sont en dialecte allemand-suisse sans problème. Et là, vous vous dites, ah ben d'accord, c'est peut-être une situation un peu similaire à ce qu'on a avec le français. Et si on va dans, dans les parties en Suisse où ils parlent français, on arrive, on les comprend très bien, voilà. Mais en fait, les dialectes allemand-suisse, ils sont vraiment éloignés de l'allemand classique. S'il y a un allemand qu'elle est en Suisse, ou si vous, vous avez fait allemand au collège, au lycée, et que vous alliez là-bas, vous ne les comprendriez pas. Il y a beaucoup de différences, notamment au niveau de la grammaire. C'est vraiment complètement à part. En fait, les enfants à l'école, du coup, dans ces cantons-là, eh ben, ils apprennent l'allemand à l'école pour pouvoir, après, ben, justement, comme on disait, tout ce qui est à l'écrit, ça va être de l'allemand plus classique, et du coup, pour pouvoir comprendre tout ça. Et avoir aussi un allemand qui va fonctionner de manière plus internationale.
Ah ouais.
Et voilà. Ben.
Et voilà, j'ai trouvé ça assez surprenant parce que comme on a notre point de vue de français sur le suisse français.
Mais est-ce que finalement, comme tu disais là, l'allemand que les Allemands ne comprendraient pas ou quoi, ça se rapporte un peu comme au français qu'on parle au Québec, que nous on ne comprend pas des masses non plus.
Si, parce qu'on comprend quand même. Si tu parles avec un Québécois, Il y a l'accent, il y a peut-être des trucs, il y a des expressions qui t'échappent un peu.
Ouais.
Là, c'est vraiment, il y a une grammaire différente.
Ok. C'est... Ouais. Oui, c'est complètement, genre, complètement différent, limite, une nouvelle langue, quoi.
Bah, c'est... Il y a assez de similarités pour que ce soit un dialecte.
Mais... Mm. Très bien. Eh bien, écoute, merci Axel. On écoute maintenant notre dernière chanson qui terminera notre mini tour du monde avec Mona Lisa de Fiona Cavain. Et cette prononciation est absolument catastrophique, je m'en excuse. Que laude chin cha un chier de la de picou strain obedi que pi suri e calare grieberi as an este stil de veni che rezzate se durate Et c'était Mona Lisa de Fiona Cavain et c'était en romanche. Voilà, comme ça, si vous n'avez jamais entendu la langue, vous saurez maintenant à quoi ça ressemble. Vous êtes toujours sur Prune avec nous, 92 FM, et nous entamons la dernière chronique de cette émission spéciale plurilinguisme avec Étymologie en folie.
L'étymologie en folie.
Et pour cette chronique, je me suis penchée sur un mot que l'on entend souvent et qu'on a beaucoup dit dans cette émission et qui m'a paru un peu curieux parce qu'il peut qualifier beaucoup de choses en fait. Et c'est le mot bilingue. Alors Azilis et Axel, quel est le premier sens qui vous vient quand vous entendez ce mot ?
Bilingue de langue.
Donc quelqu'un qui parle de langue, c'est ça ?
Quelqu'un qui parle de langue.
Ouais. Bon, bah, personnellement, pour moi, c'est exactement pareil. Et là, vous allez me dire que la plupart des gens l'entendent aussi dans ce sens. Je suis d'accord.
Et pourtant, quand on y réfléchit, il peut aussi signifier, par exemple, qu'un pays entier parle deux langues ou que quelque chose est rédigé en deux langues. Bref, dans tous les cas, on s'entend sur sa définition, ça implique deux langues qui sont parlées. Mais l'étymologie du mot nous renvoie à d'autres définitions. Et oui, en fait, j'ai découvert qu'au XVe siècle, on disait d'une personne qu'elle était bilingue quand elle mentait ou qu'elle était fourbe. C'est fou, hein ? Bref, elle avait deux langues, l'une pour dire la vérité et l'autre pour dire un mensonge. Ouais, moi aussi, c'est fou, hein ? Et tenez-vous bien parce que c'est pas fini. En 1618, Turretini, dans Défense de la fidélité des traductions de la Sainte Bible, a utilisé le mot bilingue pour qualifier les personnes qui parlaient différemment en public et en privé. C'est-à-dire une personne qui savait manier et la langue familière et la langue soutenue. Donc, deux langues techniquement, mais enfin, c'est la même langue, mais deux types de langage. Mais alors, comment a été construit le mot bilingue ? Bon, eh bien, encore et toujours, on va parler de notre très cher latin. Donc, ça vient du mot du latin bilinguis, que l'on décompose en bi, autrement dit bis, pour deux, et linguis, qui vient de lingua, qui signifie langue. Bon, pas besoin d'avoir fait des années de latin pour comprendre la logique, ça semble assez évident. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ce mot, pourtant si ancien puisqu'il vient du latin, n'a commencé à se répandre que dans les années 1980. Ça revient du coup à ce que je disais plus tôt, là, comme quoi les études datent finalement des 40 dernières années à peu près. Et ça, c'est quand le sens est devenu celui que l'on donne, que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire parler deux langues. Et puis bon, puisque j'y étais partie, je me suis aussi amusée à aller chercher l'étymologie et le sens de ce mot en anglais. Et au niveau de l'étymologie, bon, on est bon, ça correspond à la nôtre. Mais ce qui est drôle, c'est que là, il y a un seul sens. Ils n'ont pas du tout utilisé comme nous pour dire que quelqu'un est menteur. Il a toujours voulu dire et veut toujours dire parler deux langues. Et puisque j'étais lancée sur les langues et sur le champ lexical des langues, je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil au mot polyglotte, que je trouve assez rigolo déjà comme mot. Oui. Bon, sans grande surprise, il vient du grec, polyglottos, donc là, je ne suis pas sûre de la prononciation, mais voilà, qui a plusieurs langues. Je ne vous appellerai pas en grec ancien parce que mes connaissances des lettres se limitent à alpha, bêta, oméga, epsilon, pi et psi. Merci les maths. Mais ce que j'ai trouvé assez intéressant et étonnant, c'est que l'un de ses sens, quand il était utilisé en 1678 pour être précise, c'était Bible imprimée en plusieurs langues. Bref, ça revenait encore une fois à la religion. Bon, ça c'était pour la petite anecdote. Et on arrive déjà à la fin de cette émission Langue de Prune. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez des anecdotes justement dans des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés qui mélangeaient deux langues et vous avez eu des sortes de petits malentendus ? Dites-moi tout.
Alors moi j'ai un petit truc, c'est juste que tu parlais de la méthode regarder des séries pour apprendre l'anglais. Quand j'étais au collège, bon, je regardais beaucoup la série Skins. Pour un peu de contexte, c'est une série qui se passe à Bristol. La plupart des acteurs venaient de là-bas aussi. Donc on va dire une zone avec un accent très fort. Et une manière de parler aussi particulière, voilà, ils sont là. Et bah, du coup, bon, ça m'a pas mal aidé en anglais, mais il y a aussi plusieurs fois où en cours, je me suis rendu compte que bah, l'anglais que j'apprenais, c'était plus l'anglais de là-bas, et que c'était pas forcément les termes, voilà, donc il y a plusieurs fois, le prof me disait, alors, ouais, ça, c'est dans un coin de l'Angleterre, c'est pas partout qui dit ça comme ça, mais bon, voilà.
Oui, t'apprenais du slang, quoi, de Bristol.
Oui, voilà, ouais. Voilà. Et bah, après aussi, l'avantage... Tu parlais de Grey's Anatomy, forcément, une grande série, de grande écoute comme ça, c'est très lissé au niveau de l'accent.
Ouais.
Là, c'était l'inverse, c'était très, très crochu au niveau de l'accent. Donc, je pense que faire l'effort de regarder une série comme ça, un peu plus underground, quelque chose d'anglais...
T'as raison. Et puis, tout comme Peaky Blinders, en vrai, j'ai dit ça, mais Peaky Blinders, c'est quand même une bonne base pour comprendre des accents plutôt du nord de l'Angleterre.
Oui.
Après,
le côté historique.
Voilà, mais rien ne vous préparera quand même à la réalité. Franchement, quand vous avez un bon coup dans le nez ou que la personne en face de vous a un bon coup dans le nez, que vous vous retrouvez face à un Irlandais qui commence à vous parler, je vous jure que je me suis retrouvée dans une situation où il y avait un Anglais qui ne comprenait pas un Irlandais. Parce qu'il était trop bourré, il était là, je ne comprends pas ce qu'il dit, je ne comprends pas. Et on était tous là à essayer de lui dire, mais parle moins vite, on ne comprend pas ce que tu dis.
Après, ça nous est tous arrivé de voir le mec en soirée qui, avec un coup dans le nez, même t'es français, tu ne le comprends pas.
Donc, oui.
Sinon, ça se transpose sur
d'autres langues. Ouais, mais l'irlandais, je te jure, t'as l'impression qu'il parle un dialecte du fin fond de l'antarctique, quoi, c'est terrible. Assilise, dis-moi tout.
Moi, j'ai plus une anecdote qui montre ma méconnaissance en langue. C'est parce que j'aimerais bien être bilingue bulgare. Parce qu'un jour, je suis revenue de Turquie en bus. Et du coup, les chauffeurs de bus étaient bulgares. Et c'était très gênant de ne pas comprendre le bulgare. Parce qu'ils passaient leurs annonces en bulgare. Et donc, quand on s'arrêtait, Il disait des trucs en bulgare et je pense qu'il disait on s'arrête une minute juste pour prendre des gens ou on s'arrête 15 minutes. Et du coup, je ne savais jamais et j'avais très envie de faire pipi. Donc, à un moment, je me suis lancée, j'ai couru. Et quand je suis revenue, j'ai vu le bus partir avec toutes mes affaires. Et je lui ai couru après.
Mais non.
Et en fait, ce n'était pas mon bus.
Tu m'as fait hyper peur.
Je ne serais pas là sinon pour le raconter.
Donc, au final, tu as bien récupéré ton bus.
Ouais,
ok, bon. Bah, j'ai une anecdote aussi un peu avec les toilettes. J'étais à New York et moi, je sais que j'ai appris vachement l'anglais britannique. Et puis, du coup, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et j'arrive vers un mec dans une grande surface, un mec de la sécurité. Et je dis bonjour, est-ce que vous pouvez me dire où sont les toilettes? Et donc, j'utilise le mot anglais, toilet. Et il me regarde, il me fait quoi? Et je répète le mot et je me dis merde, est-ce que j'ai un mauvais accent, il comprend pas machin. Et le mec, je finis par avoir un flash et me dire ah là là, non mais il me fait pas ça quand même. Le mec est pas si peu cultivé qu'il connaît pas le mot anglais. Et du coup, je me souviens du mot américain et je dis bathroom. Et là, il me fait oh, bathroom. Et là, je fais oui. Il me fait ah bah c'est juste ici. Et il était juste à côté. Il me regarde en mode. Mais vous savez, mademoiselle, ça se dit pas. Et il me dit, ça se dit pas toilette, ça se dit bathroom. Et je dis, bah non, mais en anglais, ça se dit toilette. Et il me dit, oui, mais ici, on dit bathroom. Et du coup, bref.
Ah oui, en plus, si tu étais aux États-Unis, si tu leur dis ça, ils ont dû.
Ouais, mais oui, enfin, bon, clairement, je l'ai dit ensuite à ma collègue qui était américaine. Elle m'a dit, non, là, il a abusé, c'était pour te faire chier. Parce que toilette, on sait ce que ça veut dire quand même.
Oui, bah oui.
Bref, voilà. Bon, bah, merci d'avoir participé à ces petites anecdotes. Merci à Célice et Axel. Et on espère qu'on vous a donné plus de clés et de réponses pour comprendre le plurilinguisme et que désormais, vous pourrez vous la péter en soirée quand vous ressortirez les paroles de Mr. Brightside par cœur. En attendant, on se retrouve le mois prochain pour la dernière. Est-ce que ce sera la dernière de la saison?
Eh bien, oui.
Ce sera la dernière tout court.
La dernière tout court. Bon, bah, restez à l'écoute sur Prune 92 FM. Salut tout le monde!
Salut!
Salut!
À plus dans le bus,
à plus tard dans
à
le
bientôt
car.
Dans le métro,
à mardi dans le
à
taxi,
plus tard,
à
très
dans
vite
le car.
Dans le cockpit.